Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
Bonsoir à tous et bienvenue dans La Grande Librairie. Nous sommes à New York City, la ville qui ne dort jamais, pour une émission spéciale consacrée à la fine fleur de la littérature new-yorkaise contemporaine. Je vous emmène à la rencontre d'écrivains qui vont vous surprendre et surtout vous faire découvrir une ville que vous ne connaissez peut-être pas. Notre fil rouge ce soir, eh bien, il sera jaune. Jaune comme les taxis jaunes de New York, les yellow cabs. Pourquoi ? Parce qu'ils sont d'abord l'emblème de cette ville, New York City, et puis pour une autre raison. Parce que tous les écrivains, depuis Scott Fitzgerald jusqu'à Paul Auster, en passant bien sûr par Salinger, mais aussi tous les grands actuels, Douglas Kennedy, Colm McCann et tant d'autres, eh bien, ils ont placé, à un moment ou à un autre, un de leurs personnages dans un taxi jaune. Et après tout, pourquoi pas nous et vous ? Taxi ?
Oh yeah. One more time.
Hello.
Hi.
Bonsoir Benoît Cohen.
Bonsoir François.
Quel plaisir de vous avoir comme fil rouge, fil jaune tout au long de cette émission. Alors Benoît Cohen, chauffeur de taxi devenu écrivain, ou plus exactement, écrivain qui s'est mis dans la peau d'un chauffeur de taxi, et c'est ce que vous racontez dans un livre absolument passionnant qui s'intitule Yellow Cab, publié chez J'ai lu en poche, adapté en bande dessinée par le grand Chabouté. Quelle chance.
Ouais.
Vous allez être notre guide ce soir, Benoît, et nous emmener à la rencontre des écrivains américains qui ont accepté de vous ouvrir les portes de leur atelier. Voici le sommaire.
New York est peut-être la ville qui a su le mieux se réinventer, quelles que soient les tragédies qui l'ont frappée, grâce à ses écrivains qui en racontent l'histoire et s'en font les chroniqueurs. Patti Smith, icône punk et pop des années 70, s'est imposée comme la plus brillante des chroniqueuses de ce New York où les artistes osaient tout. Ce soir, Patti Smith nous entraîne dans un lieu mythique de Manhattan, le studio Electric Lady. C'est dans ce studio, chargé de souvenirs, que l'auteur de L'année du singe et de Just Kids réconcilie la chanson et la littérature.
Je suis une dingue à haut niveau de fonctionnement.
Puis je vous emmènerai à la rencontre d'une jeune romancière qui passe au scalpel les relations hommes-femmes dans l'Amérique des campus étudiants. Kate Reed Petty est la révélation de cette rentrée littéraire et son roman True Story est une réflexion saisissante sur la rumeur et le statut de victime d'agression sexuelle à une époque qui veut tout exhiber et surtout tout raconter.
Je pense que Donald Trump et la culture du viol sont très étroitement liés.
Mais New York, ce n'est pas seulement Manhattan, c'est aussi Brooklyn, où vivent désormais bien des écrivains, comme la romancière Nicole Krause, dans le quartier de Park Slope. Après l'histoire de l'amour qui l'a fait connaître dans le monde entier, Nicole Krause questionne le sens profond de nos vies dans une série de nouvelles écrites exclusivement du point de vue des hommes.
Il n'existe pas de femme qui ne se soit jamais demandé ce que ça ferait d'être un homme.
À Brooklyn, je vous emmènerai dans le quartier de Red Hook, où a grandi James McBride, romancier génial, lauréat du National Book Award, et qui raconte dans Deacon King Kong l'évolution de ce quartier, qui fut à la fin des années 60 un ghetto, avant de devenir l'un des quartiers les plus branchés de New York.
En français, on dit bobo, whatever, you know, new people, you know, bobo. Bobo.
Enfin, William Boyle vous fera découvrir le quartier italien de Gravesend avec son atmosphère de polar juste à côté de Coney Island, le Brooklyn encore populaire, loin des itinéraires touristiques.
On habitait en bas dans cet appartement qui avait été celui d'un gangster, Gaspipe Casso.
Un gangster ?
Ouais.
Sans oublier bien sûr notre chauffeur, Benoît Cohen, auteur d'un remarquable récit intitulé Yellow Cab, dans lequel il raconte cette expérience insolite, devenir chauffeur de taxi à New York.
Benoît Cohen, Yellow Cab, racontez-nous pourquoi et comment vous avez décidé, Benoît, de devenir un jour chauffeur de taxi ici à Manhattan.
En fait, quand j'ai déménagé à New York il y a 7 ans, J'avais le projet d'écrire un scénario sur une actrice française qui débarquait à New York pour vivre son rêve américain et qui en fait finissait chauffeuse de taxi jaune. Et donc, pour pouvoir écrire ce film, j'ai moi-même passé ma licence et j'ai conduit un Yellow Cab pendant 6 mois.
C'est le récit d'une expérience, Benoît Cohen, mais là où vous pensiez découvrir le rêve américain, en réalité, sur votre banquette arrière, s'installe peu à peu, j'ai l'impression, l'envers du décor. Alors, Yellow Cab, Taxi Driver, c'est le rêve américain ou c'est au contraire le cauchemar américain ?
En débarquant, moi, à New York, j'avais encore cette naïveté du rêve américain. Et c'est vrai que, par exemple, Taxi Driver, c'est clairement le cauchemar américain.
C'est une ville dangereuse, New York ?
Plus maintenant. C'est-à-dire que dans les années 80, il y avait un meurtre de chauffeur de taxi par jour en moyenne. Et aujourd'hui, sincèrement, en 6 mois, j'ai quasiment jamais eu peur. Il y a un soir où je me suis retrouvé dans une situation un peu tendue, mais sinon, j'avais pas peur. Par contre, c'est vrai que les gens qui passent sur votre banquette arrière, il y a du désespoir. J'ai eu une fois une femme qui est rentrée en larmes et qui a pleuré pendant tout le voyage. Je savais pas ce qui se passait, j'ai pas osé l'interroger. On sent qu'il y a une tension dans cette ville, qu'il y a une violence qui est sous-jacente, mais pas une violence qui va s'exprimer par une agression ou quoi, c'est la violence de sociale de la ville. Et ça, c'est très présent, oui. Mais c'est vrai que dans toute cette aventure de Taxi Driver, j'ai vraiment ressenti l'énorme fossé entre les gens qui ont tout et les gens qui n'ont rien. C'est-à-dire que... Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai voulu être chauffeur de taxi et pas chauffeur de Uber, parce que je voulais pas avoir des gens qui aient une carte bleue ou un iPhone. Je voulais des gens qui puissent, avec un billet de 5 dollars, rentrer dans un taxi et puis descendre 4 blocs plus loin. Et d'ailleurs, j'ai eu des gens qui, clairement, étaient des gens qui... probablement que les 5 dollars qu'ils m'ont lâché étaient les seuls 5 dollars qu'ils avaient, quoi.
Il y en a même un qui, à un moment, rentre dans votre taxi et puis, à la fin, vous demande de lui offrir la course et même... de lui donner un peu d'argent, et vous dites « je lis la honte sur son visage ». C'est-à-dire que ce n'est pas une demande simple à faire non plus, cette extrême pauvreté.
Ah oui, ça c'était incroyable. C'est incroyable et ça m'a saisi parce que je me sentais grand seigneur quand je lui ai dit bon, « allez-y, c'est pas grave, c'est pour moi ». Et qu'il n'est pas sorti de mon taxi et qu'il m'a dit « est-ce que vous pourriez en plus me donner 10 dollars ?» Et je lui ai donné. Mais c'est vrai que c'était incroyable.
Ce que je trouve formidable, moi, dans votre livre, Benoît, c'est que peu à peu, par petites touches, se dessine un portrait de la ville, New York, mais aussi un portrait de ses habitants. Aujourd'hui, si vous deviez faire ce portrait de New York, si vous deviez lui tirer le portrait à cette ville, qu'est-ce qui ressortirait le plus ?
Il y a à New York cette chose que moi j'aime le plus, c'est cette diversité. C'est ce no judgment, les gens ne se jugent pas. Donc les gens sortent avec des cheveux rouges, avec des signes religieux, avec des genres sexuels qu'on peut même pas définir, et ça ne gêne personne. Et en fait, tant que vous ne dérangez pas votre voisin, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et en fait, ça, c'est ce qui ressortait le plus dans mon taxi, c'est-à-dire les gens qui montaient dans mon taxi, je savais jamais à quoi ils allaient ressembler, et c'était une galerie de portraits, que d'ailleurs Chabouté a très bien rendu dans la BD, qui était d'une variété incroyable. New York City. Please go easy on me tonight. New York City, please go easy on this heart of mine. 'Cause I'm losing my lover to the arms of another. New York City, please go easy on me. Thank you. Thank you. Bye. Merci pour toi.
Il y a une dimension très littéraire dans votre récit, et puis il y a une dimension à la fois sociologique et ethnologique. J'ai parfois, en vous lisant, eu l'impression que vous étiez un peu comme cet ethnologue qui observe une tribu indigène, et je me demandais si vous aviez réussi à garder tout le temps la bonne distance, ou si au contraire vous aviez plongé, tête la première, dans cet univers qui est quand même absolument fascinant.
En fait, je pensais pouvoir garder cette distance. C'est-à-dire que je me suis dit, moi, je suis pas là pour gagner ma vie, je suis réalisateur, je suis français, je suis... voilà, privilégié et tout ça. Et si quelqu'un me plaît pas, je le sors de mon taxi, on n'en parle plus. C'est moi qui décide. Et en fait, au bout de 10 minutes, j'étais chauffeur de taxi. Et, et, Et en fait, c'est pour ça que j'ai pris des notes au fur et à mesure de cette expérience, jour après jour. Et c'est que après, quand je suis rentré dans le moment où j'ai réécrit cette histoire sous forme de récit et où j'ai justement intégré de la littérature, parce qu'au début, les notes, c'était vraiment des notes extrêmement journalistiques, très, très simples. Là, quand j'ai commencé à réinterpréter mon propre texte, mes propres notes, là, j'ai pu prendre de la distance et j'ai pu analyser ce qui m'est arrivé. Mais pendant que je conduisais le taxi, j'étais chauffeur de taxi.
On va quand même aller voir quelqu'un qui est devenu purement new-yorkaise, c'est Patti Smith. On est là dans Soho, c'est-à-dire South of Houston. Et si on remonte Houston Street, là, on arrive dans le village, Greenwich Village. Et c'est là que nous attend Patti Smith.
Formidable. Allons-y.
On y va ?
Allez.
En taxi ?
Ouais.
Allez.
Pour saisir l'esprit de New York, il faut lire ses écrivains. Et pour commencer, lire les livres de Patti Smith. Depuis Just Kids, couronnée par le National Book Award et traduit dans le monde entier, celle qui fit ses premiers pas sur la scène rock et punk des années 70 grâce aux poètes Allen Ginsberg et William Burroughs, s'est imposée comme l'un des écrivains majeurs de New York. Et pourtant, Patti Smith reste ce qu'on appelle de ce côté de l'Atlantique une maverick. Indépendante, elle est profondément non-conformiste et c'est pour ça qu'on l'aime. Tous ses livres sont à cheval entre rêverie et souvenirs.
Je vais vous montrer. Vous voyez cet endroit ? Ici, avec ses fenêtres et cet escalier de secours.
Ici ?
C'est là que j'habitais au début des années 70.
Ah oui ? Vraiment ?
Bob Dylan habitait plus bas. Je le voyais passer. Là, je m'asseyais sur cet escalier de secours et j'écrivais des poèmes. C'était mon coin à moi.
Incroyable. Donc, tout près du Café Wa ?
Oui, le Café Wa. C'est là que Jimi Hendrix se produisait. C'est très petit et très sombre. Regardez, il y a le portrait de Jimi là derrière.
Ah oui.
Tout le monde salue Jimi en passant devant.
Et vous, vous le saluez aussi ?
Bien sûr.
Hello Jimi.
On salue tous Jimi. Robert et moi avons passé beaucoup de temps dans ce parc. Une femme voulait que son mari nous prenne en photo. Elle a dit « Je crois que ce sont des artistes ». Il a répondu « Oh, ce ne sont que des enfants ». Et c'est de là qu'est venu le titre. Juste là.
Patti Smith m'a donné rendez-vous au cœur de Greenwich Village.
Thank you. Good. Have a good day.
Elle vous emmène ce soir dans l'un des derniers hauts lieux du Village, le studio où ont enregistré les plus grands artistes. Jimi Hendrix, David Bowie, les Rolling Stones, Clash ou encore Daft Punk. Et bien sûr, Patti Smith, le studio Electric Lady. Alors le studio n'a pas changé ?
Non, je veux dire, techniquement, ça a changé, la table de mixage et des choses comme ça. Salut Jimi. Et ça, ça vient de mon single. Mon premier single, Hey Joe, Peace Factory.
Wow, il y a 47 ans.
Oui, on a enregistré Peace Factory et c'est tout. On avait 3 heures. Il était minuit moins 10.
Quoi, vous l'avez enregistré d'un seul coup ?
Oui, on était obligés. C'est tout ce que Robert pouvait payer. Et à l'époque, c'était beaucoup d'argent pour nous. Nous étions très concentrés. Je suis très fière d'être sur ce mur.
Sur le mur ?
Bien sûr, notre album n'a jamais été disque d'or ou de platine. Mais il est sur le mur, ici. Et moi, je préfère être sur le mur du studio Electric Lady que... Oui.
Et maintenant, ça fait partie de l'histoire.
Oui. Je les vois depuis les années 70. Ça fait combien d'années ? Environ un demi-siècle, non ?
Ouais, un demi-siècle, 50 ans, plus que ça même.
Oui, ça fait 50 ans que je les vois. Ils sont toujours là.
Nous sommes à l'endroit où vous avez, Patti Smith, enregistré votre premier album, Horses.
l'endroit où vous continuez de venir enregistrer vos albums et je crois même écrire certaines parties de vos livres. Que représente l'esprit de ce studio pour vous?
Well, it's just I mean all of my musical history.
Toute mon histoire musicale pourrait se résumer à cet endroit. En commençant par la composition des morceaux. Je suis venue pour la première fois au studio Electric Lady le 12 août 1970, le jour où Jimi Hendrix l'a inauguré. J'étais invitée en tant que jeune journaliste. J'étais tellement timide que je ne pouvais pas me résoudre à rejoindre la fête. Alors je me suis assise sur les marches et lui partait pour prendre un avion. Il s'est arrêté et m'a parlé près de 15 minutes. Il m'a raconté en détail et ses projets, ce qu'il voulait faire avec le studio. Il voulait vraiment créer une musique globale, une nouvelle musique, tout à fait en accord avec notre philosophie de l'époque, d'amour et de paix. Il croyait vraiment que la musique pouvait changer le monde. Et puis, j'ai fini par enregistrer mon premier single indépendant. Et depuis, je dirais, 60% de mes albums ont été faits ici, y compris mon dernier, Benga.
Millionaire, pat of thieves, wild card on my sleeve, thick, heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware.
Dans quelles circonstances avez-vous enregistré l'album Horses? Comment avez-vous commencé à écrire les textes et puis à faire l'album?
Horses est vraiment né de la poésie. Redondo Beach était un poème que j'avais écrit à l'hôtel Chelsea. Jésus est mort pour les péchés de quelqu'un mais pas les miens est tiré d'un poème que j'ai écrit en 1968. Ils l'étaient presque tous. Sauf Free Money que j'ai entendu chanter. Ils viennent tous de la poésie, de l'improvisation, de 1971 à 1974.
Comment êtes-vous arrivé à la poésie et quelle est votre conception de la poésie? Est-ce qu'elle a évolué d'ailleurs?
J'ai commencé à écrire de la poésie très jeune. C'était pas très bon, mais j'aimais ça. Très tôt, ma mère m'a donné des recueils de poèmes pour enfants. Je lisais très jeune, donc à l'âge de 6 ou 7 ans, je lisais des petits poèmes de William Blake, de Yeats, beaucoup de poèmes sur les elfes, les fées, beaucoup de poésie, Robert Louis Stevenson. J'aimais la poésie et je composais des petits poèmes. Et puis à 16 ans, je découvre Arthur Rimbaud. Et l'idée de ce qu'est la poésie s'est vraiment révélée du jour au lendemain. Jusque-là, je voyais la poésie plutôt comme un langage mystique.
Dans tous les livres que vous avez écrits, il y a l'esprit de Rimbaud. Dans quelle mesure êtes-vous influencé par sa vie, son histoire, et puis bien sûr sa poésie?
Sa démarche juvénile, ses pouvoirs visionnaires, son arrogance et aussi sa beauté. Jeune fille, tout ça m'a plu. Mais surtout, j'aimais sa langue. La langue de Rimbaud, même en vieillissant, je ne m'en suis jamais lassée. Je me suis détachée de nombreux artistes. Nous le faisons tous. On délaisse un groupe de rock qu'on aimait. On délaisse certaines choses qui nous obsédaient. On les contourne, en quelque sorte. Mais je lis toujours sa poésie avec le même plaisir, la même gratitude. La seule différence, c'est que je le comprends bien mieux. Quand je le lisais jeune, ça me semblait plus mystérieux. Je m'en fichais parce que la langue était très séduisante. Un peu comme Bob Dylan. Qu'est-ce que ça veut dire, Desolation Row? Qu'est-ce que tout ça veut dire? Peu importe. Bob Dylan nous a entraînés dans cette langue, ce nouveau paysage de la langue, tout comme l'avait fait Rimbaud.
Est-ce que vous avez vu ce que Rimbaud a vu?
Ah, qui peut le dire? Je ne dirai jamais ça, mais ce qu'il a fait, c'est m'ouvrir les yeux pour que je puisse avoir ma vision des choses. Pour moi, c'est comme ouvrir des plaies.
Et quand on ouvre les plaies, qu'est-ce qu'on trouve dedans?
Eh bien, beaucoup de sang qui coule. Du sang sacré.
Sacred blood. Do you still keep secret things? Est-ce que vous gardez toujours des choses secrètes? Je veux dire, maintenant, vous êtes écrivain, vous écrivez de la poésie, mais aussi sur votre propre vie. Est-ce que vous diriez que tous vos secrets sont dans vos livres, ou est-ce que vous en conservez quelques-uns pour vous?
Je donne beaucoup dans mes livres. Je veux que les gens m'accompagnent. Par exemple, dans mes deux derniers livres, L'année du singe et M-Train, je veux que le lecteur m'accompagne. Dans le nouveau livre sur lequel je travaille, qu'il aille vers d'autres dimensions avec moi. Et tout comme Rimbaud voulait que les gens voient les couleurs des Vals, je veux que les gens voient ces autres mondes dans lesquels je pénètre. Il faut partager ou dévoiler ou faire peau neuve pour le lecteur. Mais nous gardons toujours quelque chose pour nous-mêmes. Je pense que c'est important, tout aussi important que d'en garder pour soi, il est important de donner la part du lion aux gens. L'artiste a un cheminement. Le cheminement, pour moi, est la partie la plus sacrée de la création. Ça m'appartient.
Quand on lit votre dernier livre, L'année du singe, on a l'impression que vous avez toujours un pied dans la rêverie et un pied dans la réalité.
Je l'ai toujours eu.
Toujours.
Toujours. Depuis toute petite.
Vraiment?
Toujours. J'ai été élevée dans une famille modeste, en situation très difficile après la Seconde Guerre mondiale. Donc, si je voulais voyager, je voyageais là-dedans ou à travers les livres. Et c'est ce que je voulais vraiment faire, écrire et voyager. Et c'est pourquoi je suis reconnaissante. Je n'ai jamais pensé à chanter ou à avoir un groupe de rock ou à faire des tournées. Mais je suis tellement reconnaissante parce qu'en 1975, j'ai pu voir une grande partie du monde grâce à ça. C'était une révélation. En faisant simplement ce petit disque, en chantant, en évoluant et en faisant Horses, je pouvais tout à coup aller à Londres et à Paris et en Finlande, à Stockholm et tout ça, en Russie, à Tokyo. Nous sommes allés partout. Just Kids, ironiquement, a eu plus de succès que n'importe lequel de mes disques. Grâce à Just Kids, j'ai voyagé à nouveau avec mes livres, parce qu'il est publié en 43 langues. Je suis allée à Istanbul il y a quelques années. 3000 jeunes sont venus. Je ne faisais que signer des livres et je me disais, combien de personnes vont venir pour une simple séance de signature à Istanbul?
Enfin, pas seulement un livre, Patty, un livre de vous.
Un livre que j'ai écrit, oui, mais pour une fille qui a toujours aimé les livres depuis l'enfance, qui a toujours aimé lire, les livres, la lecture, la possibilité de lire, ces auteurs qui écrivent tous ces livres merveilleux et continuent à les écrire, c'est l'un des plus grands plaisirs de la vie. Et pouvoir écrire un livre que les gens aiment tant, c'est merveilleux. C'est un don.
Je voudrais vous montrer quelque chose sur cet iPad. Regardez, laissez-moi le tourner.
D'accord, ai-je besoin de mes lunettes?
Non, je crois pas. Que pouvez-vous me dire au sujet de cette photo?
Mon ami, Allen Ginsberg, mon ami, à New York, probablement autour de la 13e rue, pas loin. Et qu'est-ce qu'on voit? Toutes ces poubelles, c'est New York. On dirait que c'est pendant une grève du ramassage des ordures. J'adore cette photo. Elle est sur mon mur. Alors, qu'est-ce que cette photo signifie pour moi? C'est la photo au-dessus de mes livres, parce que c'était mon ami. Les avis sont partagés sur Allen. Pour moi, c'était un maître. J'ai tellement appris sur la poésie, l'activisme, William Blake. C'était un esprit très généreux. Je l'ai beaucoup lu à voix haute. C'est très... Sa poésie doit vraiment être déclamée. C'est drôle, je lis rarement Rimbaud à voix haute. Mais l'œuvre d'Allen, c'est à voix haute. Quand j'étais jeune, tout le monde me disait « Tu lis tous les auteurs de la Beat Generation, tu lis Allen Ginsberg. » Je ne les avais jamais lus. Je lisais les poètes français. Je n'avais même pas lu de poésie américaine. Ça ne m'intéressait pas. Et j'ai rencontré Allen. J'étais son ami et je n'avais toujours pas lu sa poésie.
Non, vraiment?
Non, ça ne m'intéressait pas. Mais petit à petit, je m'en suis imprégnée. Ça s'intégrait à notre époque. Il y a là un rythme américain. C'est comme l'expressionnisme abstrait, le rock'n'roll, Charlie Parker. Je veux dire, tout y est. Nous ne sommes pas toujours un grand pays, nous avons fait beaucoup de mauvaises choses, mais nous avons Jackson Pollock, Coltrane, le rock'n'roll, Allen Ginsberg, nous avons réussi certaines choses.
Et cette photo?
Eh bien, en fait, cette photo a été prise en face.
Là, juste devant?
Juste de l'autre côté de la rue, dans l'un de ces lofts où vivaient les peintres. C'était un loft réaménagé qui, je pense, avait été ou aurait pu être celui de Jackson Pollock. En tout cas, il y avait une fête là-bas. Et j'étais invitée, Bob et moi étions assis dans l'escalier à parler d'Arthur Rimbaud.
Vous souvenez-vous de la première fois que vous avez rencontré Bob Dylan? Qu'est-ce que vous lui avez dit ce jour-là?
La première fois que je l'ai rencontré, c'était, je crois, en 1974. Il est venu à l'un de nos concerts en coulisses. C'était très inhabituel. Il est venu et il a dit « Il y a des poètes là-dedans ?» J'aurais dû dire « Je ne sais pas ce que j'aurais dû dire. » Mais je l'ai regardé et j'ai dit « Je ne sais pas, je déteste la poésie, je n'aime pas la poésie. » Ce qui était un vrai mensonge. J'étais tellement arrogante. J'ai souvent dit que je m'étais comportée avec Bob Dylan dans les coulisses ce jour-là, comme lorsqu'on est gamin, qu'on aime un garçon, une fille, qu'on fait semblant de ne pas l'aimer, qu'on joue les méchants, comme un petit garçon qui tire les cheveux d'une fille. Je me suis comportée comme si je m'en fichais qu'il soit venu. Tout s'est bien terminé. Parce que nous avons fini par nous serrer dans les bras. Devenir amis.
Thank you so much. Merci beaucoup, Patty.
Thank you.
You're welcome. Avec plaisir. Been spending most their lives living in a pastime paradise. Been spending most their lives living in a pastime paradise. Been wasting most their lives.
La grande question de ces dernières années est celle de la vérité. Pendant 4 ans, les États-Unis ont vécu sous la présidence d'un homme, Donald Trump, qui a inventé le concept de post-vérité, ce qu'il a appelé les faits alternatifs, et qui permettent de faire croire n'importe quoi à n'importe qui.
Merci Ben.
Hasard ou coïncidence, c'est précisément au cours de ces dernières années qu'une jeune romancière d'à peine 30 ans a écrit un petit chef-d'œuvre ingénieusement intitulé « True Story ».
Notre taxi jaune nous attend.
Magnifique.
Kate Reed Petty vit aujourd'hui à Baltimore, mais elle a situé à New York, la ville de toutes les ambitions, une partie de ce roman ensorcelant.
Hello. Bonjour.
Kate, laissez-moi vous présenter notre chauffeur, Benoît, écrivain également.
Bonjour.
Ravi de vous rencontrer, Benoît.
Et on va à Brooklyn, chauffeur, s'il vous plaît.
Okay, allons-y.
C'est le meilleur endroit de la ville.
True Story raconte l'histoire d'une jeune femme hantée par ce qui lui est arrivé 16 ans plus tôt, au lycée, sur la banquette arrière d'une voiture. Mais justement, que lui est-il vraiment arrivé ? A-t-elle été victime d'un viol, comme le soutient sa meilleure amie qui a entendu les coupables s'en vanter ? Ou bien ces jeunes garçons ont-ils, pour frimer, lancé une rumeur désormais impossible à stopper ? Kate Reed Petty excelle à jouer avec les nerfs du lecteur à la façon de Stephen King et propose une réflexion saisissante sur le statut de victime, la mémoire traumatique et la pression que chacun subit à tout moment de sa vie. Pour la grande librairie, la voici de retour à New York, dont elle connaît aussi la capacité à broyer la vie de ceux qui n'y trouvent pas le succès. Que signifie pour vous être new-yorkaise ?
Ça me gêne de dire que je sais ce qu'est un vrai New-Yorkais, ou de le définir, parce qu'il y a toujours un New-Yorkais qui est plus New-Yorkais que vous. Il y a toujours quelqu'un qui vit ici depuis plus longtemps. Ce que j'aime en habitant cette ville, c'est la vitesse, le mouvement et la façon dont tout le monde vit ensemble. Tout le monde se déplace rapidement, chacun a un but précis, les gens sont ambitieux, mais tout est synchrone. Les gens vivent en harmonie dans cette ville très compacte. Je trouve ça vivifiant, je trouve ça beau. Et puis il y a tellement de culture, tellement de librairies, tellement de choses à voir.
Mais en tant qu'écrivain, est-ce que vous avez besoin de ce genre d'énergie ou est-ce que vous préférez avoir un espace calme ou passer quelques heures sans tout ce bruit ?
Oui, j'ai besoin de solitude. Et à New York, même dans la foule, vous pouvez être complètement anonyme, trouver un peu d'espace et être seul. J'ai écrit une grande partie de ce livre dans des cafés, en fait.
Ah oui, vraiment ?
Oui, j'allais dans un café et je m'installais à un coin de table pendant quelques heures. On est complètement anonyme, les gens vous laissent tranquille, il y a tellement d'énergie autour de vous.
Alors on reviendra tout à l'heure au roman, au personnage et à l'intrigue, mais est-ce que c'est pour vous le rôle du roman que d'apporter de la complexité, de sortir de cette période où tout est blanc ou noir, tout est vrai ou faux ?
Je pense que les romans sont utiles à la société, non pas parce qu'ils nous enseignent quelque chose ou qu'ils nous donnent des réponses. Je pense qu'ils nous donnent un espace de réflexion pour imaginer de nouvelles façons de... simplement de vivre. C'est pour cette raison que j'aime Pale Fire, les romans expérimentaux qui vont au bout d'une idée. Parce que la façon dont nous racontons tous des histoires influence vraiment nos vies. Par exemple, quelque chose nous arrive. Disons que je tombe de mon vélo et je me suis fait mal. La façon dont je raconte cette histoire à des amis ou à ma famille ou simplement à un étranger, si je la rends drôle ou si je la rends triste, cette histoire va changer ma vie. Je crois qu'en lisant, nous apprenons à raconter des histoires et à nous grandir dans nos récits. Cela agrandit notre champ de vision. C'est ça qui est important. Depend on your family. You can't depend on your friends. You can't depend on a beginning.
Kate, votre roman interroge la culture du viol chez les jeunes lycéens. Que pouvez-vous nous dire du rapport qu'entretiennent aujourd'hui en Amérique les lycéens, garçons et filles, à la sexualité et surtout à l'image qu'ils veulent renvoyer?
En Amérique, surtout quand j'étais adolescente, être une personne portée sur le sexe était très mal vu. En particulier pour les garçons de ma génération. Il y avait un réel besoin d'avoir le contrôle, de conquérir. Ça a créé une vraie culture délétère, un poison qui accompagne la masculinité. J'ai vu tellement d'hommes qui intérieurement étaient déboussolés, sensibles ou vulnérables, mais qui avaient l'impression qu'ils devaient se couler dans une carapace et donner une autre image d'eux-mêmes.
Pour être considéré comme un véritable Américain, écrivez-vous.
Oui, exactement. Un homme, un vrai, se doit de faire du mal aux gens d'une certaine manière. C'est ce que j'ai essayé de décrire dans ce livre.
Est-ce que les garçons doivent vraiment pratiquer une sexualité débridée pour paraître intégrés aujourd'hui, ici aux États-Unis ?
D'après moi, toute personne bien dans sa peau qui veut être elle-même est capable de résister aux taquineries et aux moqueries. Si quelqu'un est peu sûr de soi et ne sait pas vraiment qui il doit être, alors il tente à la fois de se projeter et de se fondre dans un modèle inatteignable. Vous savez, il y a cette crainte fondamentale au cœur de beaucoup de gens d'être qui nous sommes véritablement. Et l'adolescence est la période de la vie où on y est confronté. Et c'est difficile, et malheureusement, les contraintes de la masculinité vous tombent dessus à ce moment-là et poussent les gens à être différents. Je pense que Nick, au fond de lui-même, ne veut pas être comme ça, mais il ne voit pas d'autre solution.
Je vous pose la question parce que ça, c'est le point de départ. C'est précisément pour... parce qu'on a peur ou parce qu'un de vos personnages a peur d'être moqué et de ne pas s'intégrer, qu'il va inventer une rumeur ou qu'une rumeur va commencer à circuler. À quel moment vous vous êtes-vous dit il y a un lien entre la culture du viol et la question de la rumeur et de sa naissance?
Vous savez, une grande partie de la culture du viol, tout au long de mon adolescence, a été nourrie par un mythe selon lequel les femmes, ou n'importe quelle victime, inventeraient une accusation, inventeraient des choses. Ça a parfois été le cas, mais c'est tellement rare. Et cette idée de fausse accusation de viol, ce mythe, c'était vraiment un thème sur lequel je voulais écrire. Et j'ai pensé au départ à un jeune homme qui inventerait une telle histoire. Que se passerait-il si, en fait, c'était les agresseurs qui inventaient l'accusation ? J'explore l'idée que c'est tout aussi dommageable pour la victime, même s'il y a une incertitude sur la réalité des faits.
Ce qui est très brillant dans le livre, c'est la manière dont vous le racontez, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais qui parle. Alors il y a le point de vue des hommes, le point de vue des femmes, le point de vue des témoins. Il est très difficile pour celle sur qui ce viol aurait été commis de s'exprimer. Comment avez-vous eu l'idée de cette structure où il y a des emails, des scénarios, des extraits de journal intimes, etc.
Oui, l'idée de départ était de réfléchir à la façon dont les rumeurs et les histoires sur toutes sortes de sujets, mais surtout sur les agressions sexuelles, sont en quelque sorte assemblées à partir de différents témoignages, de différents types de sources. Et comme dans toute controverse, les gens essaient de saisir la vérité parmi toutes les opinions contradictoires. Je voulais vraiment montrer cela dans ce livre, pour laisser au lecteur le soin de se demander quel point de vue choisir. C'est aussi un moyen de s'échapper de ce que l'on attend d'un roman et d'un récit. Je voulais que ce livre soit radical et différent. Je voulais raconter une histoire radicale et différente qui déjoue les attentes habituelles.
Là, c'est réussi. C'est aussi un livre qui questionne la notion de vérité et d'amitié.
Oui.
Jusqu'où devez-vous dire la vérité si vous êtes un vrai ami?
C'est un défi constant d'être véritablement ami avec quelqu'un. Comme dans toute relation, vous devez assouvir vos propres besoins, vos propres attentes, et vous devez faire confiance à l'autre. L'amitié que je décris dans ce livre est beaucoup plus tendue qu'elle ne devrait être. La véritable amitié n'est pas tellement une question de vérité. L'obsession de la vérité, arriver à une vérité unique, à la manière d'un tribunal ou en politique, est une utopie. Il n'y a en quelque sorte pas de vérité entre les gens. Il y a toujours votre point de vue dans l'histoire et dans nos vies, nos histoires changent avec le temps. Si vous voulez être l'ami de quelqu'un, vous devez respecter ces changements chez lui et ne pas vous crisper sur ces questions. Est-ce la réalité? Est-ce la vérité?
Il y a une chose que l'on peut dire sans rien dévoiler, c'est que vous avez écrit ce livre au moment où en Amérique, justement, la question de la vérité était remise en cause par le président, en l'occurrence Donald Trump. Jusqu'où cette question de faits alternatifs et de post-vérité a influé sur l'écriture de ce livre, sur la rumeur et la vérité?
Je pense que Donald Trump et la culture du viol sont très étroitement liés. Dans un sens, la culture du viol concerne les hommes, les femmes et les agressions sexuelles. Mais c'est aussi un problème politique plus vaste, qui est la quête d'une sorte de pouvoir. Il repose sur la force et sur le fait de profiter des autres. Définir ce qu'est la réalité, c'est une impulsion autoritaire, cette idée que ce genre de figure patriarcale peut dire ce qu'elle veut, même si c'est un mensonge. Et donc, il y a une chose qui me fascine, c'est la manière dont nous racontons les histoires de nos vies. C'est un livre sur la narration, la manière dont nous façonnons les histoires et nous les refaçonnons au fil du temps. Vous racontez une histoire à un ami pendant un dîner, et puis elle change un an plus tard quand vous la répétez. Ça s'est vraiment accéléré avec Internet, parce que nous racontons constamment nos histoires sur Twitter, Instagram, et nous sommes vraiment doués pour embellir nos récits destinés à être publiés, ce qui les rend moins authentiques. Dans ce livre, le dernier chapitre sur les filles en est vraiment l'exemple le plus clair. Je voulais réfléchir à la manière dont nous façonnons nos identités et modelons nos histoires pour les autres, comment cette influence change la façon dont nous pensons nous-mêmes. C'est vrai aussi pour moi. Plus je pense à ce que les autres pensent de moi, moins je suis moi-même. Et je serais un moins bon écrivain si j'étais trop obsédé par ma façon de paraître. J'espère donc que ce livre approfondira cette réflexion.
Et c'est ici, précisément sur les berges de Dumbo à Brooklyn, que s'achève True Story de Kate Reed Beatty. Alors, Brooklyn ou Manhattan ?
Nous revoici dans les rues de Manhattan, dans l'Upper East Side très précisément. Alors l'Upper East Side, c'est ce quartier très riche et plutôt conservateur qui se situe à l'est de Central Park. Et c'est précisément ici que Benoît Cohen, notre chauffeur de taxi ce soir, a situé l'intrigue de son nouveau roman qui s'intitule « Le prix du paradis » et qui raconte alors là une histoire qui est un conte de fées new-yorkais, conte de fées qui se termine pas forcément comme les contes de fées classiques parce qu'avec lui... Pensez bien que l'expérience de chauffeur de taxi fait sortir des trajets habituels. C'est l'histoire tout simplement d'une très riche milliardaire de l'Upper East Side qui a longtemps été une icône de la mode. Elle a un petit peu plus de 70 ans, mais bon voilà, son temps est passé, hein, Benoît. Et elle décide d'en finir, elle décide de suicider. Sauf qu'elle n'a pas le courage de le faire, de passer à l'acte. Elle a une idée formidable. En voyant une jeune femme qui n'a rien, qui fait le ménage, c'est de lui demander de devenir tueuse à gages, et elle lui propose une somme mirifique. Et puis, dès le lendemain, cette vieille très riche new-yorkaise tombe amoureuse et décide d'annuler le contrat. Mais peut-on, une fois qu'on a enclenché la machine, revenir en arrière? C'est toute la question que vous posez dans ce roman. Pour quelle raison avez-vous eu envie de raconter cette histoire qui met en scène les très très riches new-yorkais? Il est très, très pauvre de New York.
Moi, j'ai découvert ce quartier quand j'étais adolescent. Il se trouve que j'avais mon oncle qui, à l'époque, était serveur. Il est arrivé à New York, serveur dans un hôtel, et qui s'est marié avec une milliardaire.
Alors, non.
Rêve américain. Et dans les années 70-80. Et moi, à l'époque, j'avais 15 ans. Et il m'a invité à venir passer une partie de l'été chez lui, entre cet appartement hallucinant sur Park Avenue, où on est là, ouais. Et puis dans leur maison de Long Island, où en fait la belle-mère, qui était là richissime, qui ressemble beaucoup à mon personnage de Catherine, ma couverte de cadeaux. Dans cette maison, il y avait deux piscines, un jacuzzi, d'un côté un lac, de l'autre une plage privée. Enfin, c'était délirant.
Alors, c'est l'idée que l'on se fait de la richesse new-yorkaise telle que Fitzgerald a pu la raconter dans Gatsby Magnifique ou d'autres.
Exactement. Et ce qui est très drôle, c'est qu'au bout des deux semaines que j'ai passées chez elle, elle a appelé ma mère pour lui demander si elle pouvait m'adopter. Et comme quoi, ces gens pensent que tout peut s'acheter.
C'est ce que vous montrez hein, dans ce roman, Le Prix du Paradis, en mettant en scène justement cette jeune femme, Georgia, qui va accepter le marché parce qu'elle a besoin de vivre, tout simplement, et va devenir tueuse à gages pour une somme mirifique.
Exactement, c'est tout s'achète. Et en fait, ce qui est assez intéressant dans ce que j'ai essayé de mettre en place, c'est que en fait, elle croit que tout s'achète. Et elle se rend compte que, en fait, non. Et elle va tout d'un coup... tomber amoureuse de Stick, qui en fait lui propose exactement l'inverse, qui lui propose de réinventer sa vie.
Sauf que lui, c'est pas le New-Yorkais, hein. C'est plutôt l'ours des grands espaces. Il cite Jim Harrison, il s'intéresse aux Indiens, il lui raconte l'histoire de ce Great Turtle Island, qui serait une île perdue, peut-être d'ailleurs l'avenir de la planète, non ?
Ah bah cette île, c'est une île qui est au large des États-Unis, au milieu de l'Atlantique, qui est une île qu'un acteur amérindien, à la fin des années 50, a acheté. Et cette île, depuis 60 ans, vit au rythme de leurs coutumes, loin des McDonald's, de l'Internet, des clubs...
C'est une utopie qui fonctionne.
C'est une utopie qui fonctionne jusqu'au moment où des compagnies pétrolières, ayant repéré cette île, décident d'essayer de récupérer l'île. Et en fait, le combat de cet homme, c'est d'essayer de sauver l'île avec l'argent de cette Catherine, riche new-yorkaise, qui plutôt que de dépenser son argent en jet privé et en énième appartement, pourrait réfléchir à comment donner du sens à sa vie. Et,
on n'en dit pas davantage, il faut lire Le Prix du Paradis. Ça, c'est en fait l'une des entrées aussi un petit peu mythiques du parc, quoi.
C'est une de mes préférées, celle-là.
Ouais.
On va se mettre sur le banc.
C'est exactement cette pelouse-là à laquelle que j'imaginais.
Donc ça se passe ici.
Ça se passe exactement ici.
Alors parmi les lieux emblématiques de la ville, parmi les mythes littéraire de New York, il y a le Yellow Cab, le taxi jaune, il y a la Statue de la Liberté, évidemment, il y a la 5e Avenue qui est juste là, et puis il y a Central Park, où nous nous trouvons. Il y a évidemment des scènes de votre roman qui se déroulent à Central Park, mais il y a énormément d'écrivains qui ont raconté Central Park, sa folie, son exubérance, cette ville verte dans Manhattan. Qu'est-ce que c'est Central Park pour vous, Benoît Cohen? Quel rôle joue en réalité ce poumon de New York?
C'est-à-dire que New York est une ville tellement frénétique, tellement bruyante, tellement en permanence en mouvement, stressante. C'est une ville très stressante. Et quand New York est trop oppressante, trop violente, trop tout, Central Park est la soupape qui permet de respirer.
Cette soupape, Central Park, elle est pleine de coins, de recoins et de détails parfois inconnus du grand public. Et dans votre roman, Prix du Paradis, vous nous donnez quelques explications, par exemple, tout simplement sur ces bancs. Je crois qu'il y en a 9400 dans tout le parc, c'est ça ?
C'est ça, 9400.
9400 ouais. Bancs, et on peut les adopter si on veut, enfin, on peut essayer.
Alors, vous voyez, sur les bancs, là, par exemple, derrière nous, il y a une plaque. Alors, là, c'est Jacob Alpern. Et donc, en fait, on peut, pour 10 000 $ la modique somme de 10 000 $ acheter ou en tout cas adopter un banc. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est que quand on achète un banc, on signe un contrat. Et dans le contrat, il y a écrit que la plaque restera à vie. Alors, on ne sait pas si c'est la vie du banc ou la vie de la personne qui achète le banc, mais en tout cas, c'est pour la vie, ou la vie du parc, ou la vie de New York. Mais voilà. Il y a une autre anecdote que je raconte dans mon livre aussi qui est assez amusante, c'est qu'un peu plus loin, dans le parc, un peu plus bas, il y a un zoo qui est assez iconique aussi, puis qui est un tout petit zoo, mais alors vraiment un petit zoo, mais très charmant. Et dans ce zoo, il y a un ours polaire qui s'appelle Gus et qui a la particularité d'être le premier ours polaire à avoir été mis sous Prozac. Parce qu'il était tellement stressé.
Ça, c'est New York.
C'est New York. Donc voilà. Donc c'est ce genre de choses que je raconte au fil de mon roman. Quoi.
Et c'est ça qui réussit, c'est pour ça que le roman est bon.
Merci.
Retour à Brooklyn. Brooklyn est depuis toujours un des hauts lieux de la culture new-yorkaise. Mais depuis quelques années, c'est devenu le cœur battant du renouveau new-yorkais. Brooklyn a remplacé Manhattan dans le cœur des artistes depuis que les loyers de l'île ont explosé. Mais depuis 2 ou 3 ans, c'est le phénomène inverse que l'on observe.
7e avenue.
Tout se passe ici, à Brooklyn, dans quelques quartiers. Si c'était une ville, Brooklyn serait la 4e des États-Unis, avec plus de 2 800 000 habitants. Loin de l'agitation de Manhattan, on trouve ici des quartiers plus authentiques et plus calmes.
Alors Benoît, nous sommes dans le quartier de Park Slope, à Brooklyn. Quelle est sa spécificité à ce quartier, cette partie de Brooklyn ?
C'est un quartier très résidentiel, très coté aujourd'hui. C'est des très très belles maisons. Dans les petites rues autour de cette avenue là, qui est l'avenue centrale. C'est très coté parce que c'est à proximité de Prospect Park, qui est un peu le Central Park de Brooklyn. Et puis il y a le Brooklyn Museum aussi qui est là. Il y a le Botanical Garden, qui est un endroit hallucinant au printemps. Et puis il y a beaucoup d'écrivains qui habitent ici.
Oui, c'est le quartier de Paul Auster.
Voilà, Paul Auster, Cyrus Vette qui habitent là. Et donc Nicole Krauss, qui est en bordure de parc.
Dans la même rue que Paul Auster. C'est vraiment la rue des écrivains.
C'est la rue des écrivains.
Nicole Krauss s'est imposée avec L'histoire de l'amour au début du siècle comme l'une des toutes meilleures romancières américaines. Elle excelle à saisir l'âme des hommes et des femmes dont elle met en scène les espoirs déçus et les vies secrètes. Il y a dans son écriture une poésie et une justesse incroyables, comme en témoigne ce magistral recueil de nouvelles intitulé « Être un homme, quand une femme au talent exceptionnel se glisse dans la peau des hommes ».
Cette question, « Être un homme », depuis combien de temps vous la posez-vous ?
Probablement depuis toujours.
Vraiment ?
Oui, il n'existe pas de femme qui ne se soit jamais demandé ce que ça ferait d'être un homme. Vraiment, qu'est-ce que ça fait d'être un homme ? Car je ne doute pas que les hommes se posent la même question. Qu'est-ce que ça fait d'être une femme ? Quand on est une fille et qu'on grandit, et même avec autant de liberté que je pense avoir eue, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses que nous ne sommes pas libres de faire. Par exemple, d'être pleine de rage, d'être en furie. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes dans mes livres qui sont pleins de rage. Et c'est en partie parce que je me demande ce que ça fait de pouvoir exprimer cela librement. Pas parce que c'est un sentiment qui m'est inconnu. Bien sûr, être humain, c'est savoir ce qu'est la rage, la colère. Mais ce n'est qu'un exemple. En tant que femme, vous apprenez à ne pas l'exprimer ou à trouver des voies alternatives. Vous remarquerez que la plupart des histoires, 7 sur 10, sont racontées par des femmes. C'est donc les deux. En réalité, il s'agit beaucoup d'être une femme dans ce livre.
En fait, oui. C'est ça. 7 nouvelles sont racontées du point de vue des femmes pour comprendre ce qu'est un homme. Il y a dans tous vos livres, et on le retrouve dans ce recueil de nouvelles, l'idée que les êtres sont perdus et que cette perdition peut les amener à changer. Pourquoi aimez-vous tant ces moments de bascule dans l'existence ?
Parce que c'est le moment des possibles. Une histoire, un roman, ne fonctionne tout simplement pas
À moins qu'à un certain moment, un personnage ne doive mettre genou à terre. Et je ne l'entends pas au sens le plus dramatique. Genou à terre, au sens où quelque chose doit changer. L'ancienne façon d'être, l'ancienne façon de penser sont arrivées à une impasse. Et alors, c'est la base de tant d'histoires. Et nous y revenons parce que nous sommes attirés par cette possibilité, lecteurs et auteurs. À l'instant où le personnage est en perdition, c'est l'occasion pour que des choses commencent à se produire en lui ou qu'il change.
J'aime beaucoup la deuxième nouvelle qui s'intitule « Zusha sur le toit ». Comment ce personnage, Broadman, est-il venu à vous, ce vieil homme qui renaît à la vie au moment où son petit-fils naît? Il est malade, on lui diagnostique, on ne sait pas trop quoi, hein. Il est opéré, il va mourir, et en fait non, il renaît et il va changer complètement.
J'aime l'idée de mourir et de revenir à la vie.
De quelle manière?
À nouveau, il s'agit de changement. Toute sa vie, il a été professeur d'histoire juive. Toute sa vie, il a été courbé sous le poids, le fardeau du devoir. Toute sa vie, c'est maintenant un vieil homme, il l'a ressenti ainsi. Et puis il se pose cette question, où donc était ma liberté? Où était la possibilité d'être non pas la figure symbolique de tout cela, mais d'être moi-même? Et je ne pense pas que ce soit une histoire juive, c'est une histoire humaine. Parce que nous avons tous notre histoire familiale, nationale ou culturelle. Nous sommes à la fois accablés par elle et façonnés par elle. Mais alors, où sommes-nous dans tout ça? Où est notre possibilité d'être libre, de grandir différemment? Pour lui, ça se produit dans ce moment où il a une tumeur à l'estomac. Il meurt presque. Il sent qu'il meurt vraiment. Il est fiévreux, sous médicaments, et puis soudain, il revient à la vie. Pourquoi revient-il à la vie au moment même où naît son petit-fils? Voilà cet enfant, au moment où il rêve presque de pouvoir venir au monde vierge de toute histoire. Libre. Bien sûr que c'est impossible.
Dans vos livres, j'ai le sentiment qu'il y a des petits cailloux blancs autobiographiques, parfois. Par exemple, dans Forêt obscure, on retrouve une romancière qui s'appelle Nicole, qui est en proie à beaucoup de questionnements sur l'inspiration, sur sa vie de romancière. Dans Être un homme, plusieurs nouvelles donnent le sentiment que vous pourriez être la narratrice. Jusqu'où l'imagination est-elle importante pour raconter la vie et jusqu'où sa propre expérience vous semble-t-elle nécessaire d'être écrite?
Oui, elles sont entremêlées. La mémoire est une chose à laquelle j'ai beaucoup réfléchi depuis mon premier roman qui parlait d'un homme qui perd la mémoire. À l'époque, j'ai beaucoup lu sur la façon dont la mémoire est une sorte d'acte créatif. Le cerveau serait toujours prêt à créer un sentiment de soi cohérent, modifiant le passé, modifiant la mémoire pour s'adapter à cette cohérence, pour la renforcer. Et c'est beaucoup plus important qu'une chronique précise du passé. C'est donc quelque chose que je savais depuis le tout début de ma vie de romancière. C'est une idée qui était très importante pour moi parce que cette notion de mémoire du passé est infiniment souple ou déformable, assez malléable dans nos esprits pour qu'on la transforme et la modèle, pour qu'elle corresponde à qui nous sommes, à nos besoins. Cette année, l'une des choses que j'ai apprises, c'est que la façon dont nous comprenons la mémoire n'est pas tout à fait juste. Elle ne fonctionne pas comme un simple souvenir du passé, mais comme quelque chose qui nous permet de prendre des décisions concernant l'avenir. Comment naviguer vers le futur? Notre sens du passé existe pour nous aider à décider qui devenir, comment accueillir ce qui se passera ensuite et comment y survivre. C'est fascinant.
It's fascinating, right?
J'aimerais beaucoup voir l'endroit où vous écrivez, votre bureau. Vous pouvez me le montrer?
Yes.
Venez avec moi.
Ah.
Yeah.
C'est magnifique.
Il y a beaucoup de belles histoires dans ce lieu.
Ah ouais, j'en suis sûr.
De quoi avez-vous besoin comme environnement pour écrire ?
De sérénité, je pense. C'est un sentiment exaltant d'être seul. C'est comme lorsqu'on était enfant et que soudain on se retrouvait seul dans un endroit un peu magique. Je ne sais pas si j'ai ce sentiment en écrivant, mais c'est celui-là que je veux, cette magie de ce que c'est d'être seul. Et j'ai besoin de calme.
Et vous avez besoin d'être entouré par vos livres, d'être dans un environnement avec une bibliothèque et les livres.
Je pense que tous les livres me font me sentir accompagnée. Je me sens un peu moins seule avec mon travail.
Est-ce que vous pourriez me montrer un de vos manuscrits ?
La plupart de mes livres sont dans des boîtes. Mais j'ai quelques nouvelles. Celle-ci s'appelle « Je dors, mais mon cœur est éveillé ». Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Donc ce sont tous les brouillons.
Il n'y a pratiquement pas de correction.
Ici, vous en avez quelques-unes.
Est-ce que ça veut dire que vous écrivez d'un seul jet ?
Non.
Comment est-ce que vous écrivez exactement ?
J'ai l'impression que parfois, quand j'en parle, je cours le risque de paraître mystique. Mais c'est un peu mystique, parce que je ne sais pas pourquoi ça arrive. Je ne peux pas expliquer à quel moment, pourquoi tout à coup, à ce moment-là, je trouve une certaine voix, ou une manière d'écrire, ou une structure d'idées que tout à coup je connais. C'est la porte qui s'ouvre et j'entre. Maintenant, je suis dans le livre. Je ne sais pas ce qui va se passer et je ne sais jamais jusqu'à la fin où va le livre.
Jamais.
Jamais.
Vous n'avez pas de plan ?
Jamais.
Vraiment ? Non, je ne peux pas le croire, parce que vos livres sont tellement différents.
Je ne prends même pas de notes. Bien sûr, j'ai un cahier de notes pour tous mes livres.
Vraiment ?
Oui, j'en ai un seul. C'est celui-ci. C'est tous les livres que je n'ai jamais... Toutes les idées, c'est ici. Regardez combien il me reste de pages.
Vous voulez dire qu'il y a à peine 50 pages pour 15 ans de carrière ?
Oui, 20 ans.
20 ans. Qui sont les écrivains qui ont compté pour vous et qui sont aujourd'hui des inspirations ?
L'un des écrivains qui a beaucoup compté pour moi est Philip Roth. Je vais vous montrer quelque chose de spécial. Suivez-moi.
Wow. Comment l'avez-vous rencontré ?
Je lui ai écrit une lettre. Et je lui ai dit que je le lisais depuis mes 12 ans, depuis que ma mère m'avait donné Portnoy et son complexe.
Votre mère vous a donné Portnoy et son complexe.
Je pense qu'elle ne se souvenait pas vraiment de tout ce qu'il y avait dedans. Mais je lui ai dit que je le lisais depuis l'âge de 12 ans. Et puis je voulais lui dire que quand il serait parti, il me manquerait, qu'il m'avait tenu compagnie toute ma vie d'écrivain. Nous avons longtemps parlé, c'était il y a de nombreuses années. Et il m'a donné tous ses conseils et à la fin je lui ai dit « S'il vous plaît, écrivez-les ». Alors il a écrit « Ce n'est pas à vous de vous mesurer aux autres ». Deux, ce n'est pas à vous de juger l'œuvre. Trois, racontez simplement l'histoire. Et là vient le meilleur, le quatre. Ça ne va pas s'améliorer. Résignez-vous à ça.
C'est vraiment le génie littéraire. Mais j'aimerais bien que vous me racontiez pourquoi cet écrivain est si important pour vous. Qu'est-ce qu'il a changé, peut-être aussi, dans votre écriture ?
Je pense qu'il m'a appris très jeune quelque chose sur l'importance de la lutte. Je ne sais pas quel mot vous utiliseriez en français, mais lutter comme Jacob lutte avec l'ange, comme on lutte avec ses origines.
La lutte avec l'ange ? Mais c'est aussi au cœur de votre propre œuvre littéraire. Tous vos livres sont traversés par cette question.
Je pense que c'est pour ça que j'ai ressenti une parenté avec lui. Même si c'est un homme, avec une psychologie complètement différente de la mienne. Il a passé sa vie à enregistrer sa conscience. C'est une conscience complètement différente de celle d'une jeune femme, comme je l'étais quand je l'ai rencontrée. Mais en même temps, cette position essentielle de lutter pour sa liberté sans brûler les ponts avec ce qui vous lie, l'endroit d'où vous venez, c'est vraiment essentiel dans son œuvre et dans la mienne, comme vous l'avez dit.
L'un des quartiers les plus en vogue de Brooklyn est actuellement Red Hook. Ces anciens docks à l'ouest de Brooklyn offrent une vue imprenable sur la Statue de la Liberté et le sud de Manhattan. On y arrive en bateau-taxi et on flâne sur les quais où on a l'impression de revenir 50 ou 80 ans en arrière. Mais il suffit de parcourir deux ou trois blocs pour découvrir un tout autre paysage. Red Hook porte encore les stigmates de son passé, celui d'un ghetto où furent construits ce qu'on appelle ici des projects, des HLM, où la ville de New York entassait toute la misère et tous les espoirs d'une main-d'œuvre venue du Sud et qui, peu à peu, fut dévastée par la pauvreté et la drogue. C'est ici qu'est né James McBride.
Ça le fait ?
Peut-être l'un des meilleurs écrivains américains contemporains. James McBride a connu le succès dès son premier livre, « La couleur de l'eau », autobiographie, dans laquelle il retrace la vie de sa mère, Blanche, fille d'un rabbin polonais, qui a bravé tous les interdits pour épouser un noir protestant. Elle a élevé les 11 frères et sœurs de James McBride dans la précarité, le chaos et la joie. L'Oiseau du bon Dieu, couronné par le National Book Award, vient d'être adapté en série par Ethan Hawke. Et Deacon King Kong, le nouveau roman de James McBride, drôle et sublime, raconte l'histoire de ce quartier, Red Hook, à travers les yeux des habitants d'une résidence HLM, aujourd'hui détruite. James McBride connaît bien les gens sur lesquels il écrit. Très investi auprès de sa paroisse, où il joue du jazz dès qu'il le peut, c'est là qu'il m'a donné rendez-vous.
Hey, James. Man. Welcome to Brooklyn.
How are you?
Nice to see you.
See you.
All right.
How are you, man?
Very good. Very good.
Pourquoi cet endroit particulier vous tient-il tant à cœur?
Bah, c'est mon église. L'église que mes parents ont construit avec les gens du HLM. Voilà, je vous ouvre. Bienvenue dans la maison de Jésus.
Quelle est la différence, James, entre l'église fictive de Deacon King Kong, qui est au cœur de votre roman, et cette église?
Eh bien, l'église fictive de Deacon King Kong, tout d'abord, je n'entrerai pas avec ma casquette sur la tête et s'envolerai sur le champ. Mais l'église fictive de Deacon King Kong, elle n'est pas chauffée. La chair du pasteur, elle est un peu plus haute. Et l'orgue est sur une estrade. Il n'y a pas de batterie dans l'église baptiste de Five Ends.
Et c'est quoi une église sans musique?
Qu'est-ce que l'église, une église noire en particulier? Il faut de la musique. C'est pour ça qu'ils dépensent tellement d'argent pour le système audio. Ils veulent de la musique, et vous voyez les haut-parleurs partout. Parce que les gens qui viennent ici veulent de la musique. Ils viennent pour chanter, et chanter fait partie des prières pour soulager vos peines. Parce que la musique, c'était le psy, le thérapeute, le soulagement pour des gens qui étaient opprimés 6 jours par semaine. Et le 7e jour, ils pouvaient venir à l'église et crier, hurler leur chagrin en chantant, et ça remonte à l'esclavage. Et ça existe encore.
Et vous, James, quel est votre propre rapport à la religion? Je veux dire, votre père était pasteur.
Oui, il y a une photo de mon père, là, sur le mur. Je veux dire, je ne vais plus beaucoup à l'église. Je n'ai plus besoin d'entendre les prêches. Moi, je m'intéresse qu'aux solutions. Il faut savoir que la gentrification a détruit beaucoup d'églises noires. Beaucoup d'églises noires ont été vendues. Il y a des copropriétés à leur place. Et donc cette église-là, elle est sur la liste de tous les promoteurs immobiliers. On reçoit sans cesse des propositions d'achat des lieux. Mais tant que je vivrai, cette église, jamais. Les fidèles vous le diront, nous ne vendrons jamais. Nous resterons ici, ils peuvent construire des gratte-ciels autour de nous, nous ne partirons jamais. Donc ma relation avec l'église est à la fois politique et spirituelle.
Taxi ?
Ah ben voilà. All right.
Allez, nous allons au Sonny's Bar.
Mon préféré.
Ah ouais? Ça, c'est le parc. J'y ai joué, enfant. Là, c'est la piscine. Quand j'étais gamin, il ne fallait pas s'aventurer par ici la nuit, à toute heure.
Vraiment?
À aucun moment de ma vie, non? Pas tout seul, non, à moins d'avoir un endroit précis où vous rendre. Mais c'est devenu vraiment dangereux ici que dans les années 80, lorsque le crack est arrivé. Ça a vraiment détruit beaucoup de familles.
Mais vous écrivez dans le livre que cet endroit était la cité la pire de toute la ville de New York.
Oui, les causes. Dans les années 60, lorsque la cité des causes existait, les HLM, c'était pas des lieux sûrs. Mais c'était pas un endroit où on craignait d'être assassiné. On pouvait plutôt être agressé ou se faire piquer son portefeuille. Et les causes, c'était un lieu particulier. Parce que l'histoire se déroule juste avant que la drogue ne s'empare de la communauté. La drogue a détruit la communauté. Ah tiens, je voudrais vous préciser un point. Vous voyez cette école ici? C'est une école privée. Et pas un seul enfant des HLM ne fréquente cette école. Tout l'ensemble est protégé par des grilles. Ça, c'est une illustration de la façon dont fonctionne l'Amérique d'aujourd'hui. Ils s'installent dans un coin de la ville, ils construisent leurs écoles derrière des murs, des portails, avec leur propre parking. Les enfants de ces écoles n'ont jamais aucun contact avec nous, et nous n'avons aucun contact avec eux.
Mais ça n'a aucun sens.
C'est pas de la démocratie. Je ne sais pas ce que c'est, mais... c'est vraiment pas ce que l'Amérique est censée être.
James, comment résumeriez-vous l'intrigue de ce roman sans spoiler, évidemment, ce suspense qui dure jusqu'à la fin?
Je n'en connaissais pas la fin moi-même.
C'est vrai?
Je savais juste que l'attaque, l'élimination de ce trafiquant de drogue enverrait des vagues de discorde et des vagues d'agitation à travers la communauté. Et au fur et à mesure que les personnages ont commencé à se développer de plus en plus, en réagissant à cette élimination, la fin a commencé à se dessiner.
Pour quelle raison avez-vous choisi l'année 1969 pour situer l'action de ce roman? Parce que c'est une année de bascule. Et de quelle manière pour vous?
C'était une période de grand changement à New York. New York était sur le point de faire faillite. Les voisins changeaient très vite. La fuite des Blancs s'est précisée. Ça signifie que les Noirs et les Latinos avaient commencé la grande migration vers New York. Et c'était les années 60, c'était un temps d'espoir, d'innocence. Et innocence, c'est pas un mot souvent associé à la communauté noire. Innocence. Quand vous parlez d'innocence dans les années 60, il y a toujours une référence aux Beatles, à Woodstock, à l'innocence des Blancs. Mais vous savez, nous aussi, on était innocents.
Même s'il y avait beaucoup de violence, qu'il y avait énormément de dealers de drogue.
La violence et la drogue ne sont venues qu'à la fin. C'était le résultat final de la douleur. En vérité, je me sens bien plus en sécurité ici que lorsque je marche dans la rue à Park Slope, parce que je sais que les flics sont moins susceptibles de m'arrêter ici. Et je connais les gens. Les Blancs ont moins peur de moi ici que là-bas. La peur des Blancs est toxique pour les Noirs américains, parce que ça entraîne toujours des problèmes, et c'est toujours des problèmes pour nous.
Et que s'est-il passé lorsque ces HLM se sont effondrés ?
La drogue. La drogue a détruit. La drogue est arrivée. C'était tellement plus facile de vendre de la drogue à l'époque. Dans les années 70, là on entre dans les années 70, la drogue avait beaucoup plus de valeur marchande que de nos jours. Aujourd'hui, on ne gagne pas beaucoup d'argent en vendant de la drogue dans la rue. Mais à l'époque, c'était très lucratif.
C'est ce que vous racontez à travers un personnage, le jeune Deems, qui est à la fois le caïd du quartier, hein, et qui commence à vendre de la drogue, mais qui était aussi peut-être celui sur qui reposaient tous les espoirs, car c'était un prodigieux joueur de baseball.
Dans les années 60, le baseball était très populaire dans la communauté noire. En partie parce que l'arrivée de Jackie Robinson dans le baseball à Brooklyn, c'était comme si Dieu était arrivé sur Terre. Et donc les Noirs adoraient le baseball. Enfant, on adorait le baseball. Nous n'aimions pas le basket. Le basket, c'était OK. Le foot, c'était bien. Mais le baseball, Et donc Deems était un grand joueur de baseball. Et puis, il a fini par succomber à l'attrait de la drogue.
Parlons de Sport Coat, le héros de ce roman. J'aimerais que vous nous présentiez Sport Coat. Quel genre d'homme est-il ?
J'ai connu un million de Sport Coat dans ma vie. Sport Coat, c'est un vieil homme noir du Sud qui est monté à New York en portant avec lui les problèmes du Sud. Un gros buveur. Un gars qui aime rire, qui rejette simplement les problèmes de la vie, qui avance avec peine et qui est toujours drôle. Toujours drôle. Donc, les hommes dans mon entourage, mon beau-père, mes oncles, tous, ils étaient tous comme Sport Coat. Ils étaient tous vieux, ils s'habillaient bien, comme il faut, ils buvaient un certain type de bière. Ils travaillaient tout le temps, ils respectaient tout le monde parce qu'ils croyaient en la capacité de chacun à s'élever au-dessus de la pauvreté et de la souffrance. Il y en a encore beaucoup aujourd'hui comme ça.
James, pourquoi écrivez-vous ?
Pourquoi j'écris ? Réfléchissons. Pourquoi j'écris ? Je suis pas sûr. Je sais pas très bien pourquoi j'écris. Non, mais je veux dire.
Allez.
Non, j'écris parce que.
Ok, d'accord. Allez, vas-y, donne-moi.
Bon, allez. J'écris parce que je sais pas quoi faire d'autre de moi-même. J'étais musicien.
Vous jouez de la musique ?
Mais la musique, ça suffit pas. Ça, c'est le truc. Ça raconte pas assez l'histoire. Je veux dire, si vous êtes Sonny Rollins, ça le fait. Je pense que j'étais pas mauvais. J'étais assez bon pour jouer pendant des années. Mais j'ai plus à dire. C'était pas de la musique créative. Il me faut constamment créer quelque chose de nouveau. Créer. La littérature me donne cette possibilité de rencontrer de nouvelles personnes. C'est ça. En musique, vous n'avez pas besoin de nouvelles personnes. Vous rencontrez des nouveaux musiciens, des organisateurs de concerts, des producteurs, des techniciens de la scène et du son. Mais la fiction vous donne l'occasion de connaître des gens que vous ne rencontreriez jamais. Et ils vous aident dans votre vie. Car comme la plupart des gens, je vis dans une énorme douleur. Donc, quand j'ai des gens que je peux rencontrer le matin à 4h30, 5h jusqu'à midi, ils soulagent ma souffrance. Et ils rendent la vie digne d'être vécue.
Thank you.
Brooklyn est donc un mélange de quartiers chics, envahis par les bobos new-yorkais et les touristes, et de quartiers encore très populaires où l'esprit de New York reste intact. Red Hook, mais aussi Gravesend, le quartier italien, entré en littérature grâce à un auteur de polar et de romans noirs à la plume bien affûtée, William Boyle. Écossais par son père, qu'il n'a pas eu l'occasion de fréquenter bien longtemps, italien par sa mère, William Boyle est le chroniqueur de ce Brooklyn où la corruption règne en maître et où les communautés se chamaillent. Son nouveau roman, La Cité des Marges, est un kaléidoscope éblouissant où le destin d'une dizaine de personnages se noue entre quelques rues. On y croise un ex-flic brutal qui rend des services à un truand local, son ex-femme qui ne se remet pas du suicide de leur unique enfant, une mère courage qui découvre qu'elle aussi a droit à sa part de plaisir mais est affublée d'un fils parasite, convaincu qu'il tient avec l'histoire de cet ancien flic corrompu un sujet de film digne d'un grand Scorsese. Tout ce petit monde se croise et se recroise dans ce quartier qui se situe à quelques rues de Coney Island, le point de ralliement des classes populaires new-yorkaises depuis toujours et où William Boyle situe une grande partie de son roman.
Right. Regarde Nathan, tout droit là.
Génial.
C'est là qu'il m'a fixé rendez-vous, devant une institution new-yorkaise. Cette baraque à hot dog, baptisée Nathan's, ouverte depuis 1916.
William.
François, nice to meet you.
Ravi de vous rencontrer.
Très heureux de vous rencontrer. Et puis, spécialement ici, devant chez Nathan's. Et vous savez pourquoi? Parce que, page 127, un de vos personnages dit « Manger un hot dog au petit déjeuner ici, ça, c'est le rêve américain.
Oui. »
Alors, il va falloir que vous nous expliquiez pourquoi c'est le rêve américain, mais on va peut-être d'abord prendre un hot dog.
Oui, bonne idée.
Pourquoi ce hot dog représente-t-il le rêve américain?
Eh bien, je ne sais pas si c'est mon rêve américain, mais c'est certainement le rêve américain de Nick. Pouvoir désirer tout ce que vous voulez, c'est ça, le rêve américain. Vous pouvez avoir ce que vous voulez à tout moment. Et pour Nick, cela signifie prendre une journée de congé, venir à Coney Island, prendre un hot dog, faire ce qu'il veut faire. Et c'est ainsi qu'il voit les choses.
Vous veniez ici quand vous étiez gamin?
Oui, mon quartier, c'est juste le quartier d'après.
J'adorerais voir l'endroit où vous avez grandi, l'endroit dont vous parlez dans votre roman. On y va?
D'accord. Weed in the city of a Netflix nation, laying in bed all day, stay naked, never gonna stop until I have it all. Singing, oh, 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 oh. Give me liberty, give me death. House on the hill and a couple. So where I grew up is on the border. J'ai grandi à la frontière entre Gravesend, Bensonhurst et un troisième quartier, Bass Beach. Nous allons prendre la 86e rue qui apparaît dans tous mes livres. Il y a là tous les petits marchés, les étals de fruits et les petites boutiques, les pharmacies. Sous le métro aérien, c'est là que la célèbre scène de poursuite du film French Connection a été tournée. Et ils ont filmé tout ça sans autorisation. Nous refaisons le même chemin en ce moment. Nous entrons, en somme, au cœur de l'endroit où j'ai grandi.
Vous écrivez à un moment, William Boyle, que le personnage de Denis, c'est-à-dire ce flic corrompu qui travaille pour un truand local, résume à lui seul l'esprit du quartier où nous nous trouvons, c'est-à-dire...
Pour moi, Denis est... Je crois que... L'un des endroits où le livre débute reflète la dualité de Donnie. Un méchant que nous voyons au début commettre une mauvaise action. Et puis au chapitre suivant, quand nous le rencontrons quelques années plus tard, c'est un bon samaritain qui aide Ava quand elle a un gros coup de déprime. Ce genre de nature conflictuelle avec un méchant qui peut aussi faire le bien.
Alors à vous lire, on a le sentiment que les flics de Brooklyn étaient tous corrompus, d'une manière ou d'une autre. Hein. Est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce que vous avez poussé un petit peu loin le bouchon pour les besoins du roman noir ?
Je pense que c'est une chose intéressante qui donne matière à réflexion. La perception de la police a changé de manière si radicale après le 11 septembre. Mais quand j'ai grandi dans les années 80 et 90, il était évident que la police de la ville de New York était profondément corrompue. Mais vous savez, ce n'est plus ce que c'était alors. Mais ça existe toujours.
Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, Benoît ? Vous avez l'impression qu'il y a toujours une corruption dans la police américaine et new-yorkaise, à Brooklyn ?
Moi, je n'ai pas eu beaucoup affaire à la police depuis que je suis ici, donc je ne sais pas trop, mais c'est vrai que la corruption semble avoir été un peu diminuée. C'est-à-dire que dernièrement, surtout, là, il y a eu tout ce mouvement de Black Lives Matter qui a fait qu'il y a eu, je pense, une manière de repenser la police en profondeur.
Je pense que certains débats qui étaient nécessaires depuis longtemps ont enfin eu lieu. Après le 11 septembre, les policiers ont été considérés comme des héros, mais sans effacer tous les problèmes. Et ça a coïncidé aussi avec la militarisation de la police dans les années 2000, qui n'est évidemment pas seulement un problème new-yorkais, mais un problème américain, et peut-être au-delà. Toutes ces questions arrivent à un point critique maintenant, mais au moins ces débats ont eu lieu, même si rien ne change. Enfin, certaines choses changent.
Il y a toujours beaucoup de mélancolie dans vos romans. Pourquoi ?
Oui, je pense que c'est moi qui suis comme ça. J'ai ces deux côtés. Et il y a ce côté mélancolique. On peut aller tout droit si on retourne chez moi. Et je pense qu'il y a aussi un peu d'humour, une sorte d'humour noir et étrange, un humour bizarre. C'est une tristesse indéfinie que je pense avoir toujours ressentie, surtout ici. C'était ce que je fuyais quand j'ai voulu m'éloigner de New York. Et mon pâté de maison, c'est la prochaine à droite.
Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard.
So this is the place.
C'est donc la maison dans laquelle vous avez grandi.
Oui, enfin, c'était à mes grands-parents. Mes grands-parents ont acheté cette maison au début des années 50 pour 4 000 $.
4 000 $?
Oui.
Incroyable.
C'est donc notre maison depuis 70 ans.
Ce que vous racontez dans ce roman, c'est que tous les personnages qui vivent dans ce quartier, hein, ils habitent tous à peu près ici, sont d'une façon ou d'une autre un peu des losers. Pour quelle raison ?
Je ne sais pas si c'est quelque chose de générationnel. J'ai grandi, évidemment, en aimant Nirvana et ce genre de truc. À l'époque, c'était plus intéressant d'être un perdant ou un raté,
ouais.
Pas un gagnant.
Mais on sent une grande désillusion.
Oui, cette désillusion, vous savez, il y a vraiment de quoi être déçu en général dans ce monde. Si vous êtes incapable de vous caler sur une fréquence qui bloque ce genre de sentiment, alors il n'y a aucun moyen de vivre sans perdre ses illusions.
No way to exist really without being disillusioned about something or everything.
C'est ça qui m'intéresse. C'est ce qui m'obsède. Cette désillusion commence probablement par moi et se fraye un chemin dans les personnages.
Et l'humour noir est spécifiquement lié au personnage de Nick et la façon dont il aimerait être écrivain, vendre pour $1 million son scénario à Martin Scorsese. Comment avez-vous eu cette idée ?
Son caractère n'est basé sur personne en particulier. Mais je me suis basé sur les pires personnes que j'ai rencontrées dans ma vie. Celles qui veulent le gain sans avoir à travailler. Elles ont le rêve, mais elles n'ont pas la rigueur nécessaire pour faire le boulot. Et donc, je me suis dit que c'était lui, ce personnage, que je pouvais vraiment mettre en morceaux sans pitié et m'en moquer. C'est pas dans mes habitudes. Peut-être parce que j'ai vu en lui la pire version de moi-même. Je ne sais pas.
Peut-être.
C'est peut-être pour cela que j'étais si dur avec lui.
Vous avez peur de ça, pour vous-même, de devenir un jour une sorte de Nick?
Eh bien, il y a peut-être un moment dans ma vie où j'ai pensé que j'aurais pu devenir ce personnage. Je sais que je n'ai pas suivi ce chemin, et c'est peut-être pour ça que j'ai été si dur avec lui, parce que je suis content de ne pas être lui, et je suis content de ne pas avoir pris les décisions qu'il a prises.
Une dernière question, William. Pour vous, quel est le rôle de l'écrivain ?
C'est une question à laquelle je réfléchis beaucoup. Il y a toujours un centre émotionnel que j'essaye d'atteindre. Comme ce que j'ai ressenti quand j'ai regardé les films qui m'ont ému, lu les livres qui m'ont ému, écouté les disques qui m'ont ému. Vous savez ce que recherche tout art. C'est une façon de donner un sens au monde et une façon de découvrir qui vous êtes au milieu de toute cette folie. J'écris pour cette raison. Simplement parce que je ne sais pas comment exister dans le monde sans ça. Je ne saurais pas comment donner un sens à tout cela sans ça.
I love that.
J'espère que cette grande librairie dans les rues de New York en compagnie des écrivains qui ont raconté New York vous a inspiré. Je vous retrouve la semaine prochaine, bien évidemment, sur France 5. D'ici là, vous pouvez voir et revoir cette grande librairie sur le site France.tv. Vous pouvez l'écouter également en podcast et retrouver la liste de tous les ouvrages dont nous avons parlé sur les réseaux sociaux de la grande librairie. Je vous souhaite de belles lectures. Moi, je rentre à Paris à bord du taxi jaune. Alors, c'est moi qui conduis maintenant. In the heat of the summer, better call up the plumber. Turn on the steam pump to cool me off. With your newspaper riders and your big crime fighters, you still need a drugstore to cure my cough. Running wild in the street, wild in the street, wild in the street.
C'était La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.